France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
En cette semaine de Noël, voici une série sur les contes philosophiques de Voltaire. Aujourd'hui, Candide, la sagesse de la candeur, point d'interrogation. L'histoire, et en particulier les habitudes scolaires, qui mettent toujours Voltaire à l'honneur, ont clairement retenu ce conte publié en 1759, Candide ou l'optimisme, alors qu'elles font peu de cas en général du conte intitulé L'ingénu, publié en 1767. Et c'est troublant, car les spécialistes de l'œuvre voltairienne nourrissent quant à eux une tendresse, à mon avis légitime, pour la subtilité de l'ingénu, histoire d'un Huron débarqué en France, dont l'innocence et la simplicité des jugements sont d'une sagesse désarmante. A contrario, la candeur du personnage de Candide est empreinte de stéréotypes bien courts, inculqués par son maître soi-disant philosophe, Pangloss. L'ingénuité de l'ingénu est une qualité naturelle et première qui mérite ensuite d'être un peu travaillée. La candeur de Candide est vaguement bête, grossière en tout cas, exigeant un renversement plus radical. Or, la fin du conte, avec le fameux conseil de cultiver son jardin, est-elle si profonde que cela par rapport à d'autres écrits voltairiens ? Pour en parler, voici trois professeurs des universités en littérature française, tous trois spécialistes du XVIIIe siècle. Alors, pardonnez-moi de ne pas citer en détail vos travaux. À tous trois, riches et passionnants, ils sont précisés sur le site de notre émission. Bonjour Florence Lottery.
Bonjour.
Vous êtes en poste à l'Université Paris Cité. Bonjour Olivier Ferret. Est-il avec nous,
je crois. Je suis avec vous, mais à distance.
Ah oui, oui, absolument, depuis Montpellier. Merci aux équipes de Ici Héros pour ce duplex. Vous enseignez, quant à vous, à l'Université Lumière Lyon 2. Je précise que j'ai constaté que vous aviez publié certains travaux sur Voltaire avec Florence Lottery. Vous publiez certains travaux ensemble. Enfin, bonjour Christophe Martin. Vous êtes professeur à Sorbonne Université. Permettez-moi d'introduire cette série sur les contes philosophiques de Voltaire en disant quelques mots de leur auteur, nous y reviendrons évidemment. Dès ses premiers pas dans la littérature, Voltaire a montré une insolence critique suspecte pour son temps. À 23 ans, en 1717, il est emprisonné à la Bastille pour avoir écrit des textes satiriques visant le régent. Quand le jeune Louis XV occupe désormais le trône en 1726, Voltaire est arrêté à nouveau et choisit l'exil forcé en Angleterre. 8 ans plus tard, ses lettres philosophiques sont jugées sulfureuses. Voltaire n'a pas toujours fui les cours royales, il a même eu son moment auprès de Louis XV puis auprès de Frédéric II de Prusse, mais toujours de courte durée. Il a vécu les 20 dernières années de sa vie à Ferney, près de la frontière suisse, d'où il a mené de nombreuses batailles pour la tolérance religieuse. C'est dans cette dernière partie de sa vie, assombrie depuis la mort d'Émilie du Châtelet en 1749 et tenaillée par le problème du mal, en particulier après le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, que Voltaire a publié « Candide ou l'optimisme » en 1759, puis « L'ingénu » en 1767. Je vous propose de commencer notre analyse de ces deux contes en écoutant le début de « Candide » lu par Michel Bouquet en 1993 sur France Bleu, France Culture.
Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le Baron de Thundertentronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le Baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le Baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie car son château avait une porte et des fenêtres. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgé de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possible, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possible.
Michel Bouquet lisait ce début du chapitre 1 de Candide ou l'optimisme de Voltaire sur Radio Bleu, le 8 novembre 1993. Écoutez à présent une adaptation du chapitre 2 de Candide. Ce chapitre 2 s'intitule « Ce que devint Candide parmi les Bulgares ». Et c'est donc une adaptation proposée en août 1965 par la radio-télévision belge de la communauté française.
Il y avait à Waldberghof-Trachtigdorf de nombreux militaires à la mine la plus joyeuse. Candide, sans argent, mourant de faim et de lassitude, s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent.
Camarade, voilà un jeune homme très bien fait.
Et qui a la taille requise.
Monsieur !
Monsieur ! Est-ce moi, monsieur, que vous appelez ?
Oui, monsieur. Nous aimerions dîner avec vous.
Avec moi, messieurs ? Mais vous ne me connaissez pas.
Nous avons vu tout de suite que vous étiez une personne de qualité et en proie à quelques soucis.
Hélas !
Entrons dans ce cabaret, monsieur. Vous nous direz vos tourments.
Venez, monsieur. Mais messieurs, vous êtes trop aimables.
Vous me faites beaucoup d'honneur, messieurs. Mais je n'ai pas de quoi payer mon écho.
Ah, monsieur, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien.
Pardonnez-moi, monsieur, pourquoi ?
N'avez-vous pas 5 pieds, 5 pouces ?
Ah oui, monsieur, c'est ma taille.
Dans ces conditions, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défraierons, mais en plus, nous ne souffrirons point qu'un homme comme vous manque d'argent à l'avenir.
Vous êtes bien honnête, messieurs.
Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres.
C'est ce que monsieur Pangloss, mon maître en philosophie, m'a toujours dit. Et je vois bien que tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Et Candide mangea de grand appétit.
Vous me pardonnerez, monsieur, de paraître indiscret.
Non, non.
Mais n'aimez-vous pas tendrement.
Mademoiselle Cunégonde. Oh, oui, messieurs.
Non,
oui.
Il ne s'agit...
Point de cette demoiselle.
Nous vous demandons.
Si vous n'aimez pas...
Tendrement.
Le roi des Bulgares.
Et point, messieurs, car je ne l'ai jamais vu.
Comment ? C'est le plus charmant des rois.
Et vous ne refusez point de boire à sa santé.
J'aurais mauvaise grâce à refuser.
Levez votre verre et dites...
À la santé de sa majesté, le roi des Bulgares. Voilà.
À la santé de sa majesté, le roi des Bulgares.
Voilà qui est fait, vous voici.
L'appui,
le soutien,
le défenseur,
le héros
des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire assurée. Ah, ouais.
Et on lui mit les fers aux pieds. Les sergents recruteurs de l'époque n'agissaient point autrement. Il suffisait d'avoir bu à la santé du roi pour être aussitôt vêtu d'un bel uniforme et s'aller battre, on savait pour qui, mais non pourquoi, sur de glorieux champs de bataille.
Eh bien, il n'est pas très malin, ce Candide. Je pose la question à dessein, Florence Lottery, parce que je me demande si on ne devrait pas dire plus simplement, notamment aux élèves qui étudient cela, tantôt en seconde, tantôt en première, que c'est un grand conte sur la bêtise, non ?
Alors, oui, on peut le voir comme ça. Candide est un personnage qui ne va pas évoluer du tout, hein, pendant jusqu'au tout dernier chapitre, dont on reparlera peut-être. Il faudrait définir la bêtise à ce moment-là comme une manière de... une perméabilité extrême au système, à la proposition de système qui explique l'intégralité du monde ou qui ont ses prétentions.
Oui. Pardon, vous voulez dire que à la fois chez Candide, le dernier qui a parlé a raison, le dernier, c'est en général son, au début en tout cas, son précepteur Pangloss, qui lui a un esprit de système, c'est une espèce d'adaptation de Leibniz, qui quand même ne se reconnaît pas tout à fait. Si on connaît un peu Leibniz, on ne le retrouve pas pleinement dans les propos grossiers de Pangloss.
Non, bien sûr, c'est une caricature du système leibnizien. Et Voltaire, puisque vous posiez la question, Voltaire est-il philosophe ? Voltaire a pleinement conscience de ce qu'il fait, hein, de ce point de vue-là. Donc, il s'agit surtout de confronter un personnage qui va traverser le monde dans tous les sens, et oui. En revenant aussi sur ses pas. et avec des trajectoires tout à fait aberrantes pour certaines d'entre elles, et qui ne va jamais renoncer à se réfugier dans un système quel qu'il puisse être. Alors il y a celui de Pangloss, et puis il y a toutes les rencontres que fait Candide et qui sont autant de bouées de sauvetage auxquelles se raccrocher contre les faits. Mmh. Hein, donc c'est un texte désespérant au sens où les faits ne vont jamais aller dans le sens d'une vision du monde qui permettrait de sortir de la nasse du mal. Et il faudrait peut-être aussi évoquer, il y a la bêtise de Candide bien sûr, mais il y a aussi sa mélancolie. Qu'est-ce qu'on fait devant cette énigme répétitive du mal. Ouais. Parce que Voltaire a travaillé ce conte en fonction d'une structure de répétition qui est désespérante et qui nous conduit petit à petit à un enfoncement de cette figure de Candide dans une tristesse intense dont il ne peut pas sortir. Et puis inversement, peut-être, je ne vais pas sauver Pangloss, hein, faut pas exagérer non plus, mais Pangloss, c'est aussi celui qui, on l'a entendu dans l'extrait sur les Bulgares, c'est aussi celui qui dit à Candide que si tout est bien, c'est aussi parce que les hommes peuvent se secourir les uns les autres et parce qu'il y a une égalité naturelle entre les hommes. Et par là, Voltaire fait quand même passer quelque chose par l'intermédiaire de ce personnage aussi caricatural qu'est Pangloss, qui est extrêmement important. C'est-à-dire que s'il y a du mal, c'est aussi parce que les hommes ne sont pas solidaires les uns des autres.
Et puis il y a quelque chose de grossier, de lourd, dès le début, la lecture que nous avons entendue de Michel Bouquet, excusez-moi, Christophe Martin, et avec ce ton, là, je dirais que ça ressort encore davantage, Madame la Baronne toute grasse, tout en pesanteur, à elle-même une fille cunégonde, grasse, appétissante, fraîche, ça respire pas la vivacité, c'est pas juste, je pense, la question d'être gros, c'est pas du tout ça, c'est l'attitude.
C'est une épaisseur.
C'est l'épaisseur, hein. Disons, de quoi?
De là, en l'occurrence, une épaisseur d'abord de l'esprit, hein, tout simplement.
Un voilà, manque, c'est grossier, un manque, c'est pas gros, c'est grossier. Oui.
Grossièreté d'esprit et la pesanteur aussi des traditions. Hein. Il est accroché, le baron de Thunder-ten-Tronckh, qui est accroché à son arbre généalogique, à une tradition multiséculaire qui empêche de penser. Donc, là, on peut comprendre aussi, je pense, l'intérêt et même la fascination de Flaubert pour ce texte, hein, et pour Voltaire en général. C'est vraiment une fascination pour la bêtise aussi, hein, pour là, de ce point de vue-là, je pense que vous touchez juste, hein, en disant qu'il s'insère là, il y a une longue postérité au fond de ce travail. Mais pour revenir aussi à la question de la philosophie, il y a aussi quand même une tradition, hein, de philosophes qui ont passionnément aimé ce texte dans cette traversée de la bêtise, par exemple Schopenhauer ou Nietzsche. Oui. Nietzsche et Deleuze aussi, tous les trois, hein, considèrent que c'est, parmi d'autres, hein, bien sûr. Mais voilà, même si on est bien d'accord, hein, il n'y a pas de... on peut guère espérer ou attendre que Candide soit un programme d'agrégation de philosophie. Il y a quand même cette idée que des philosophes peuvent juger que ce travail de sape conduit par Voltaire, c'est un peu la philosophie à coup de marteau, hein, si on pense à Nietzsche, je pense que c'est quand même quelque chose de cet ordre-là. Au-delà de... Il y a bien sûr Leibniz, hein, qui est évidemment la cible privilégiée derrière Pope, enfin tous les partisans de ce qu'on appelait l'optimisme, hein, le providentialisme, voilà. Mais c'est, comme je crois l'a suggéré Florence Lautry, c'est au-delà, il y a quand même une dimension d'attaque contre une philosophie qui se voudrait totalement systématique, ayant réponse à tout.
Oui. Parce que finalement, il y a cette notion de très grande considération de tous ces personnages installés dans ce château. Alors, il y a quand même la sœur du baron qui semble-t-il a fauté, on ne sait pas bien avec qui, donc le père de Candide. Bon. Là, ça introduit un peu de fantaisie,
oui,
mais
oui.
Cette très grande considération que s'attire ce château, ça c'est pesant, c'est la bêtise épaisse.
Oui, totalement. Bon.
Et finalement, Leibniz ne sert qu'à dire qu'une pensée de système qui considère que même s'il y a des choses qui nous paraissent mauvaises dans le monde, ce monde est le meilleur possible au sens d'une harmonie générale. Il y a quelque chose de parfait qui permet de penser y compris la présence du mauvais et du mal. Mmh. Ça fait partie de la perfection. Voltaire en fait quelque chose de... C'est juste la pensée de système la plus idiote qui est ici visée.
Oui, c'est-à-dire qu'il attaque, il me semble, en un changement de focalisation. C'est-à-dire que vraiment, l'optique de Leibniz, c'est le tout, précisément. Hein, donc, c'est un effort pour inviter les hommes à penser la totalité, précisément, hein, et à sortir d'un point de vue étroit. Mais le jeu de renversement qu'opère Voltaire, c'est à la fois de dire bah, cette volonté de penser le tout, elle provient, finalement, quand elle est appliquée par des imbéciles, comme Candide et Pangloss, surtout, elle contrevient évidemment à cet idéal. Et surtout, il y a un refus, hein, c'est ce que Staubinski appelait les causalités courtes, il y a un refus dans Candide d'aller voir des causes générales, des causes totales. On en reste au point de vue étroitement présent. Et là, ça devient absurde, bien sûr. Hein. On est confronté à la banalité du mal, de la souffrance, de la douleur, saisie justement dans une focalisation extrêmement étroite où l'on refuse d'élargir le champ à la cosmologie, la théologie, la providence qui ferait le tout bien. Et c'est cela qui doit intégrer le mal. Mais Voltaire refuse précisément, là, méthodiquement, ce point de vue panoramique pour suivre les souffrances de Candide vraiment de manière très ponctuelle, au plus ras, en quelque sorte, de la terre et des souffrances.
Olivier Ferret, vous êtes bien avec nous. Le duplex fonctionne parfaitement. Merci beaucoup aux équipes de DC Hero. Vous pouvez évidemment commenter tout ce qui vient d'être dit à votre convenance, si j'ose employer ce terme. Mais je voudrais quand même aussi que vous me précisiez, de votre point de vue, si c'est vraiment Candide ou l'optimisme, un texte sur le mal. Car bon, il y a des chapitres, il y a notamment un chapitre, enfin, la place des femmes, les femmes sont l'objet de la violence, le chapitre 12 en particulier, cette vieille qui se retrouve dans une contrée éloignée où on coupe les fesses des femmes. Enfin, peut-être aurez-vous à commenter cela. Néanmoins, on est tenté de dire que sur le mal, il a déjà écrit Zadig bien plus tôt. On considère même que Zadig a été écrit à la fin des années 1730 sous un autre titre, et puis ensuite paraîtra un peu plus tard, mais c'est bien avant. Et Zadig, le mal est récurrent, divers types de mots, M-A-U-X. Est-ce que vraiment Candide apporte quelque chose à la question du mal, et est-ce que le mal est véritablement central dans Candide ou l'optimisme, Olivier Ferret?
Alors je dirais que oui, mais avant peut-être deux trois remarques sur effectivement vous parliez de la pesanteur du monde westphalien qui est dans le premier chapitre, c'est aussi la facticité de cette enflure westphalienne qui se prétend être le monde et qui n'est pas le monde, d'où là je rejoins absolument les analyses de Florence et de Christophe, et puis ça me permet de faire le lien avec ma réponse. Vous parliez aussi de l'épaisseur de la barre, de l'épaisseur de Cunégonde, mais c'est aussi une épaisseur charnelle. Et c'est une épaisseur charnelle qui va faire de ces femmes la proie des soldats. Alors le mal, oui, le mal, elles emportent chacune les stigmates. Alors par rapport à Zadig, dont je crois vous allez parler cette semaine, il me semble que le mal est déjà évidemment présent. C'est une question qui obsède Voltaire depuis qu'il écrit. Simplement, la conclusion de Zadig va dans le sens d'une forme de providentialisme, néanmoins qui est sauvé in extremis, et ce que apporte, ou du moins ce que permet de nuancer Candide, mais peut-être que d'autres contes par la suite vont le nuancer en sens inverse, c'est que justement le providentialisme, pour le coup, est vraiment mis à mal par toutes les aventures désastreuses qui s'abattent sur le personnage et sur les personnages, et en particulier effectivement Cunégonde, la vieille et d'autres.
Alors je voudrais prolonger le problème de l'optimisme de Candide, qui est Donc vous allez encore me préciser les choses, je pense. Providentialisme, accord avec... Parce que Leibniz, c'est pas du providentialisme, c'est encore autre chose. C'est l'idée d'un système rationnel, une perfection qui est saisissable par la raison, une perfection du monde. C'est pas le problème de la providence, exactement. Donc comme c'est un peu difficile, ce point, et pour le coup très philosophique... Je voudrais faire remarquer que Voltaire s'est défaussé en permanence à propos du message, comme on dit un peu prosaïquement, du livre, du conte Candide ou l'Optimisme, en disant qu'il ne l'avait jamais écrit, en mettant une lettre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Vous m'expliquerez tout cela, on va l'entendre. C'est une lettre à Monsieur Verne en mars 1759, où vous verrez que l'auteur de cette lettre... Enfin, c'est Voltaire, mais il dit qu'il ne l'a pas écrit et il trouve ce texte affreux parce que il attaque l'optimisme de Candide, attaque, dit-il, les fondements de notre sainte religion. C'est évidemment très drôle dans la bouche de Voltaire. Écoutons cette lettre.
J'ai lu enfin Candide. Il faut avoir perdu le sens pour m'attribuer cette coyonnerie. J'ai, Dieu merci, de meilleures occupations. Si je pouvais excuser jamais l'Inquisition, je pardonnerais aux inquisiteurs du Portugal d'avoir pendu le raisonneur Pangloss pour avoir soutenu l'optimisme. En effet, cet optimisme détruit visiblement les fondements de notre sainte religion. Il mène à la fatalité, il fait regarder la chute de l'homme comme une fable, et la malédiction prononcée par Dieu même contre la terre comme vaine. C'est le sentiment de toutes les personnes religieuses et instruites. Elles regardent l'optimisme comme une impiété affreuse. Pour moi, qui suis plus modéré, je ferai grâce à cet optimisme, pourvu que ceux qui soutiennent ce système ajoutassent qu'ils croient que Dieu, dans une autre vie, nous donnera, selon sa miséricorde, le bien dont il nous prive en ce monde, selon sa justice.
Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
C'est très complexe cette histoire de Voltaire disant qu'il n'est pas l'auteur de Candide, qu'il condamne d'ailleurs l'optimisme de Candide comme étant impie, mais enfin évidemment que c'est une présentation de soi d'autant plus drôle que en vérité l'optimisme de Candide est vaincu dans le livre, dans le conte. Donc on peut se dire que Candide est condamné par celui qui l'a écrit. Donc si Voltaire veut condamner l'optimisme de Candide, c'est peut-être quand même lui qui l'a écrit, ce conte. La question de la religion est-elle, d'après vous, Florence Lautry, centrale dans Candide ou l'optimisme ?
Alors oui, elle est toujours plus ou moins centrale dans les contes de Voltaire. Hein, donc, mais dans Candide, elle l'est peut-être d'une certaine manière pas autant que dans l'Ingénu, mais on y reviendra peut-être. C'est évidemment très important de revenir sur l'ensemble des discours sur le péché originel hein, quand on parle de la question du mal. Donc c'est ce que fait Voltaire ici, mais c'est une lettre qu'il faut prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire... une production qui est destinée à se publiciser, c'est pas une lettre intimement dévolue à son seul destinataire, Jacob Verne. Il faut que ça circule, et puis, surtout, il faut ironiquement reprendre tous les éléments du discours religieux en faisant semblant de se les attribuer, ça c'est vraiment de l'ironie, hein. C'est-à-dire faire parler les contradicteurs avant même ou pendant qu'ils parlent. Pendant que le conte est publié, donc bien sûr, les théologiens vont dire que le système est impie, que le système mène à la fatalité, que la question du péché originel se trouve remise en question.
Par l'optimisme, c'est voilà. Par le début.
Donc, bien sûr. Vraiment une sorte de précaution, si vous voulez, que prend Voltaire, et il fait toujours ça. Hein. Il lance ses coyonneries, et puis il pose immédiatement les garde-fous, les contre-feux, parce que c'est effectivement tout à fait délicat de traverser comme ça des énoncés théologiques qui sont extrêmement lourds. Hein, donc faut vraiment le prendre pour ce que c'est. Alors que tout le monde évidemment sait pertinemment que c'est Voltaire qui a écrit ce conte, et que même, d'une certaine manière, on peut dire que des lettres comme celle-là sont une signature.
Oui, et d'ailleurs, ça n'a trompé personne, on est
non,
d'accord.
Non, ça trompe absolument
Mais
personne.
Olivier Ferret, l'initiation de Candide dans le texte, comment dire, déjoue son optimisme du début. Est-ce que le Candide devenu quelqu'un de moins optimiste, si c'est le cas d'ailleurs, à la fin, est enfin plus correct au regard de la sainte religion, Olivier Ferret?
Je ne sais pas ce que vous entendez par plus correct.
puisque l'option d'optimisme...
Pas plus orthodoxe tout de même.
Oui, oui. Alors expliquez, qu'est-ce qu'il apprend Candide? Et du coup, affronte-t-il moins gravement la religion en devenant moins optimiste?
Il me semble que la religion, elle est, en tout cas au bout du compte, dans tous les sens du terme, elle est complètement évacuée. C'est-à-dire que dans le point d'aboutissement, le jardin final, il n'est pas question de religion. Il n'y a pas d'aumônier. Chacun se débrouille dans cette petite société, mais en l'absence totale, on a évacué en somme la question religieuse, il me semble, à la fin.
Donc au fond, c'est quelqu'un qui a une position, comment diriez-vous, je parle de Candide, hein, peut-être Christophe Martin cette fois, qui au départ, moi j'ai du mal avec cette lettre de Voltaire parce qu'elle est à plusieurs niveaux, il y a plusieurs tiroirs dedans.
Oui.
Candide est impie par son optimisme, Pangloss est impie par son optimisme, le texte les châtie-t-il?
Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un texte extrêmement retors, hein, celui-ci. D'abord pour la dénégation de l'auctorialité, bon, qui ne trompe personne, c'est une signature. Mais aussi parce qu'il est traversé, en effet, il est très polyphonique, hein, il est traversé de positions qui ont pu être, alors qui sont d'abord restituées celles en effet qui les positions par exemple de jésuites qui vont attaquer la position de Leibniz par exemple, hein, en effet il y a des dissensions, donc il reprend les arguments qu'on a pu, certains vont considérer que la position de Leibniz elle est proche de celle de Spinoza par exemple, hein, d'un point de vue religieux, donc il fait écho à ces critiques là en feignant de les reprendre à son compte, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et je crois qu'à la fin, quand il évoque que l'idée qu'il faudrait faire grâce à cet optimisme si l'on ajoute l'attente de la miséricorde et le jugement dernier, il y a aussi une allusion probable à Rousseau, hein, qui était, c'était la réponse qu'il lui avait faite dans la lettre sur la Providence. Donc il y a chez Voltaire une mobilité, hein, du positionnement philosophique qui est très grande, hein, puisque ça a été souvent souligné. Dans Candide, il se retourne en partie contre une position qui a été la sienne et qu'il va retrouver plus tard. Il y a des fluctuations.
Il y a un optimisme chez Voltaire ?
Dans l'histoire de génie, en tout cas, par exemple, hein, qui est un conte assez tardif, où il prend pour cible les athées, on va retrouver finalement des arguments qui ne sont pas si éloignés d'un providentialisme. Alors évidemment, pas dans une version aussi obtuse que celle qu'il attribue à Pangloss et à Candide, mais qui, aux yeux d'un Diderot, par exemple, d'un athée comme Diderot, d'un matérialiste, est tout aussi absurde en un sens. Donc
il y a quelque chose de Candide qui évoque Voltaire malgré tout, malgré la bêtise, excusez-moi, j'y reviens, de Candide et de Pangloss. Olivier Ferret, pardon, je vous ai un peu coupé dans votre élan, mais ça tombait bien, vous abordiez la fin. Il faut cultiver notre jardin. Alors moi, je n'ai jamais rien compris à cela. Pourtant, je suis allée à l'école comme tout le monde. On a essayé de me l'expliquer. J'avoue humblement que je ne comprends pas cette philosophie. Je ne sais pas quels sont les enjeux exacts. Et par là même, un des autres enjeux qui surgit dans Candide, c'est aussi à travers la figure du philosophe Martin. Détrône-t-il à la fin Pangloss ? Est-il le philosophe de « Il faut cultiver son jardin » Qui est-il ? Que pense Voltaire vraiment de tout cela ? Je vous écoute, Olivier Ferret.
Disons que la situation de Martin est intéressante parce que c'est en quelque sorte le contrepoint de Pangloss. Pangloss, qui, pour caricaturer déjà une caricature, qui prétend que tout est bien, Martin prétend que tout est mal. Et dans la seconde partie du conte de Candide, on sent que Candide est en somme tiraillé. On parlait tout à l'heure hein, de cette manière d'être assez perméable au discours qui l'environnant. Il est tiraillé en somme entre la position de Martin et la position de Pangloss, dans une sorte d'oscillation perpétuelle. Jusqu'au dernier chapitre, et Florence avait raison de souligner ça, c'est que on est dans ce va-et-vient entre optimiste et ce qui ne s'appelle pas encore pessimisme. Le terme apparaissant beaucoup plus tard, jusqu'à ce moment où, au fond, dans le jardin, Martin continue à déraisonner, mais on le fait taire. Pangloss, continue à déraisonner, mais on le fait taire. Et au fond, le jardin, c'est une manière de mettre en scène ce à quoi pourrait ressembler l'entraide. L'entraide entre gens de bonne volonté.
C'est pas l'égoïsme de son jardin. C'est pas du tout un égoïsme de chacun son chez-soi. C'est au contraire du lien.
C'est du nous. Il faut cultiver notre jardin.
Jardin. C'est vrai. Excusez-moi. Vous voyez comment.
Par ailleurs.
Ma mémoire déforme. Je suis désolée.
Et ce que commentait Florence tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que chez Pangloss, il y a aussi cette idée de se secourir les uns les autres. Une sorte d'égalité naturelle entre les hommes. Le jardin est une sorte de concrétisation, au fond, de ce programme. Dans une perspective qui, pour le coup, fait fi de toute considération religieuse.
Il y a quand même un retrait du monde, c'est peut-être pour ça aussi, ça explique la tendance à passer du neutre au son. On a l'impression que ce sont des individus retirés, peut-être en lien les uns avec les autres, mais pas dans la communauté humaine au quotidien, ne voyageant plus... Qu'est-ce que vous en... Florence Lautry, qu'est-ce que vous diriez de cette cultiver notre jardin, de cette devise, pour qu'on saisisse bien tous les enjeux?
Alors, comme Olivier vient de le dire, il y a d'abord notre jardin. Et notre, c'est celui de l'humanité. C'est aussi ce que ça n'est pas. Jardin, tout le monde entend le jardin d'Éden. Ce n'est pas celui-là. C'est ici, maintenant, sur la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réunir les infortunés et on peut les mettre au travail. Mais au travail de manière communautaire, c'est-à-dire que vous avez quand même le tableau de gens qui, chacun, trouve une place avec une compétence dans une organisation apaisée, alors mélancolique, où il a fallu renoncer à beaucoup, il a fallu renoncer à toute la rêverie systématique.
À la candeur, quoi.
À ce que vous appeliez la bêtise aussi, oui. C'est renoncer à ça et c'est retomber sur terre. Et y retomber en s'inscrivant ensemble dans un projet de vie collectif. C'est quand même très important, ça.
Donc c'est quand même plus
supprimant, oui,
que ce qu'on entend spontanément.
Tout à fait. Et en supprimant, oui, vous avez raison, il faut supprimer les éléments qui sont nuisibles à cette paix retrouvée entre les humains. Il faut supprimer le noble, donc le frère, le baron, qui s'était fait jésuite, le frère de Cunégonde. Donc il faut supprimer le préjugé nobiliaire pour que l'égalité puisse avoir sa place. Il faut supprimer effectivement les figures religieuses. Donc il faut créer un espace profane. Mais là où, pour moi, le conte se termine de manière très amère, et puis pour aujourd'hui, parce qu'il faut aussi, si vous faites une émission sur Candide, c'est aussi parce qu'il y a encore une actualité possible de ce conte. Il y a encore un sens à lire Candide. Candide, à la fin, la métairie, c'est aussi le renoncement non seulement à la religion, mais aussi à la politique d'une certaine façon, c'est-à-dire
à une certaine politique,
à cette politique des cours, à la politique des despotismes multiples qui règnent de par le monde, où on voit passer sur le fleuve les têtes sur des pics, des bachas qui se succèdent. On est à la jonction de l'Orient et de l'Occident, là où on peut voir passer les troubles politiques sans avoir à s'en mêler. Alors, on pourrait dire, plus de religion, plus de politique en ce sens, donnons-nous à l'économique. Parce que c'est une façon, finalement, de se retrouver autour d'une production possible des hommes sur le terrain, tout de même de la solidarité.
Donc on est quand même guéri de la candeur première de Candide, cette candeur un peu bête, nous l'avons tous dit ici.
Oui.
Alors je voudrais maintenant qu'on parle de l'ingénu, ce conte plus tardif, en tout cas pour sa publication, ou s'il y a candeur, bon, c'est quand même dans le titre, ingénuité, c'est un autre mot, je sais, mais quand même, il y a du commun. Là, elle est intelligente, cette ingénuité. Là, il y a une innocence qui évoque tout à la fois quelque chose de l'esprit naturel, si ça existe vraiment, de Jean-Jacques Rousseau, et l'intelligent perse des lettres persanes de Montesquieu, où venant de très loin, quelqu'un nous regarde avec beaucoup de sagesse. L'ingénu, je vous propose d'écouter tout de suite un double extrait du chapitre 10, plus exactement un extrait du chapitre 10 qui évoque le moment où ce Huron, c'est-à-dire cet Indien, se retrouve enfermé à la Bastille avec un janséniste nommé Gordon. Et c'est le chapitre 10, le début est lu par Nicolas Berger, notre réalisateur. La suite est lue par René Clermont sur France Culture en 1964.
Il faut, dit le janséniste au Huron, que Dieu ait de grands desseins sur vous, puisqu'il vous a mis ici pour votre salut. « Ma foi, répondit l'ingénu, je crois que le diable s'est mêlé seul de ma destinée. Mes compatriotes d'Amérique ne m'auraient jamais traité avec la barbarie que j'éprouve. Ils n'en ont pas d'idée. On les appelle sauvages. Je suis, à la vérité, bien surpris d'être venu d'un autre monde pour être enfermé dans celui-ci sous quatre verrous avec un prêtre. » Mais je fais réflexion au nombre prodigieux d'hommes qui partent d'un hémisphère pour aller se faire tuer dans l'autre, ou qui font naufrage en chemin et qui sont mangés des poissons. Je ne vois pas les gracieux desseins de Dieu sur tous ces gens-là.
Gordon lui demanda : Que pensez-vous donc de l'âme, de la manière dont nous recevons nos idées, de notre volonté, de la grâce, du libre arbitre ? « Rien, lui repartit l'ingénu. Si je pensais quelque chose, c'est que nous sommes sous la puissance de l'être éternel comme les astres et les éléments, qu'il fait tout en nous, que nous sommes de petites roues de la machine immense dont il est l'âme, qu'il agit par des lois générales et non par des vues particulières. Cela seul me paraît intelligible. Tout le reste est pour moi un abîme de ténèbres. Mais, mon fils, ce serait faire Dieu auteur du péché. Mais, mon père, votre grâce efficace ferait Dieu auteur du péché aussi, car il est certain que tous ceux à qui cette grâce serait refusée pécheraient. Et qui nous livre au mal n'est-il pas l'auteur du mal ? Cette naïveté embarrassait fort le bonhomme. Il sentait qu'il faisait de vains efforts pour se tirer de ce bourbier, et il entassait tant de paroles qui paraissaient avoir du sens et qui n'en avaient point dans le goût de la prémotion physique, que l'ingénu en avait pitié.
Cette naïveté de l'ingénu venu d'Amérique, dans le conte de Voltaire, est pleine d'intelligence, il raisonne très très bien, il est aussi prêt à dire les limites de notre savoir et même de notre intelligence. Il est formidable, cet ingénu, ça n'a rien à voir avec la candeur bête de Candide. Christophe Martin.
Bien sûr, en un sens, elles sont totalement antithétiques, hein, même si, en effet, sur le plan lexical, il y a beaucoup de points de passage possibles, hein, entre l'idée de candeur, qui renvoie à la blancheur éclatante, et l'ingénuité, qui renvoie donc à une forme d'innocence naturelle. Mais surtout, l'ingénuité au XVIIIe siècle, c'est étymologiquement, c'est la faculté de pouvoir dire franchement ce qu'on pense, hein, parce qu'on a ingénu, c'est le contraire de celui qui est affranchi, donc il est libre de naissance, il peut dire franchement ce qu'il veut. Et par, voilà, par naissance, puisqu'il est en tout cas à moitié Huron, même si il a aussi des origines basse-bretonnes, il peut jouir de cette liberté de parole. Alors évidemment, Voltaire ici s'inscrit dans une tradition. Hein, il y a, vous avez fait allusion aux Persans, mais eux viennent quand même d'une autre culture. Alors que là, l'ingénuité critique, ça a été exploité notamment au théâtre. Hein, il y a une pièce qui a eu énormément de succès, qui en avait encore au moment où Voltaire écrit, c'est Arlequin sauvage de Line de la Tour-Vetière. Et qui s'inspirait de là longtemps, mais bon, peu importe ici. Cette ingénuité, elle est donc critique parce qu'elle, précisément, elle permet de déjouer les préjugés, et notamment les préjugés religieux qu'incarne Gordon, dont les propos ici, bon, permettent de mesurer les liens qui existent avec Candide, hein, parce qu'on retrouve le providentialisme, etc. Et là, le point de vue... la parole ingénue de l'ingénu, précisément, a une radicalité, a une puissance de contestation qui en fait assez nettement ici un porte-parole, hein, de Voltaire face au discours tout fait que débite Gordon, hein, cette fois même si c'est une position janséniste en l'occurrence, mais enfin, de ce point de vue-là... ça ne fait pas une très grande différence. C'est quand même la prétention d'un discours théologico-métaphysique à expliquer, à débiter des vérités que l'ingénu conteste radicalement. C'était la fonction d'Arlequin sauvage dans la pièce de l'île de la Drevetière, de remettre en cause complètement les préjugés et il y a une allusion très nette à ça, hein, dans le chapitre 6, quand l'ingénu lui répondit par la réflexion que les sauvages ont toujours faite. Hein. Vous êtes donc de bien malhonnêtes gens, puisqu'il faut entre vous tant de précautions. C'est-à-dire que, au fond, là, c'est une remise en cause radicale des lois, hein, puisqu'en fait, il suffirait de se référer à la loi naturelle, en fait. Hein, et c'est là qu'il y a une différence, quand même, et qui est essentielle dans l'ingénu par rapport à cette tradition. Il est essentiel pour Voltaire, comme vous l'avez suggéré au début de l'émission, de cultiver cette nature. Il n'y a pas de préjugés, c'est donc très bien, mais là où il se distingue de Rousseau, hein, c'est qu'à ses yeux, il ne s'agit pas de préserver à tout prix la droite raison de la nature, il faut la civiliser. Et c'est vraiment...
Faut-il pas, Rousseau, en fait, il faut la retrouver sous le vernis d'une civilisation qui ne nous fait pas, général, du bien, c'est ça?
C'est ça, voilà.
Et là, c'est différent.
Là, c'est différent, voilà. Ça appellerait évidemment beaucoup de commentaires, parce que la manière dont Voltaire reçoit Rousseau est assez simplificatrice, un peu comme la manière dont il reçoit Leibniz.
Mais il n'est pas totalement en combat, là, contre lui.
Non, exactement. C'est ça qui est absolument troublant. Je suis totalement d'accord avec vous. Notamment... Dans les chapitres où l'ingénu est en prison, il est dans un rapport qui me semble être un rapport de dialogue, même s'il est très polémique à l'égard de Rousseau. Il y a des polémiques à n'en plus finir avec Rousseau, mais là-dessus, sur cette question de l'éducation de la nature, il est dans un rapport qui est assez étroit, qui est plus une question de nuance, je dirais.
Alors, Florence Lautry et Olivier Ferret, je suis pressée de vous entendre sur l'ingénu, cet être qui résonne si bien, innocemment, qui contre tout discours théologique, que ce soit celui où il y a du mal, mais Dieu l'a voulu à l'intérieur d'un monde parfait, ou que ce soit où il y a du mal, mais attention, il ne faut pas en accuser Dieu, enfin... Il s'en fiche de ce que peut produire son discours. Il raisonne, il dit qu'au fond, on n'en sait rien sur l'origine du mal, si je comprends bien, Florence Lautry. C'est peut-être Voltaire lui-même qui s'exprime, a dit à l'instant Christophe Martin. Mais pourquoi donc n'étudions-nous pas davantage l'ingénu, peut-être même à la place de Candide? Je vous écoute.
On a besoin des deux. Et du reste, ces deux textes ont fait partie d'un programme d'agrégation il n'y a pas si longtemps. Donc, ce sont deux textes qui dialoguent, Christophe l'a dit au début, c'est tout à fait évident. Mais, ce qui, évidemment, fait la séduction de l'ingénu quand on a lu Candide, c'est aussi une sorte de soulagement de voir qu'on peut progresser. Parce qu'en fait, ce qu'apporte l'ingénu, c'est toute la part de discours sur les conditions de progression de l'esprit humain. Christophe a parlé de la nécessité de civiliser la raison comme message central dans l'ingénu, et on le voit là, parce que quand ils sont en prison tous les deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on ne voit pas dans Candide. Ils dialoguent. Et c'est un dialogue avec des avancées, des changements de position des uns et des autres. Tout le monde progresse dans ce conte. Tout le monde change de position. Gordon va renoncer à cette part de discours théologique dont il va reconnaître la vanité, parce qu'il va écouter la manière de raisonner de l'ingénu. L'ingénu, de son côté, va se polisser davantage. Il va renoncer à une forme de rudesse qui fait partie de l'ingénuité initiale, mais qui le conduit à vouloir se marier avec Mademoiselle de Saint-Yves de manière un tout petit peu brutale, puisqu'il tente de la violer au début du conte. Et puis, à la fin, il va aussi mesurer davantage la part pulsionnelle qui est en lui. On nous le dit, il se contient davantage. C'est ça aussi, rentrer dans la civilisation. C'est aussi renoncer à toute une sauvagerie pulsionnelle. Donc, dans le sauvage, il y a cette part de l'innocence naturelle dont a parlé Christophe, mais il y a aussi la part délicate du sauvage qui est la violence. Je fais ce que je veux. Et je fais ce que je veux, ben non, ça n'est pas possible. Il faut aussi prendre en compte toute la part du monde social qui nous entoure. Donc il se socialise aussi en même temps.
Vous êtes d'accord ? Oui, pardon, je ne veux pas vous couper.
Alors, comme le temps presse, une chose aussi fondamentale, puisqu'on abat des noms philosophiques depuis tout à l'heure, c'est que retenir dans une explication, cela seul qui nous paraît intelligible, c'est-à-dire que nous sommes capables de penser, c'est aussi la leçon de Locke. Donc là aussi,
et ce sera la leçon de Kant aussi. Et
tout à fait.
Donc c'est vraiment l'esprit des Lumières. L'ingénu, c'est le conte des Lumières. Donc vous êtes d'accord, Olivier Ferret?
Ça correspond, en tout cas, ça permet de sortir un peu de cette espèce d'impasse dans laquelle on se trouve à la fin de Candide, qu'on rappelait tout à l'heure. Et on voit le raccord, d'ailleurs, dans le passage que vous avez lu. Je ne vois pas le dessein de Dieu dans tout cela. Ça fait référence, effectivement, à toutes les tribulations qu'un Candide a pu vivre et les autres personnages du conte. Mais il y a aussi, alors d'un point de vue religieux, il me semble une évolution. Christophe tout à l'heure rappelait que les positions de Voltaire sur les questions de providentialisme peuvent fluctuer, et avec notamment l'histoire du génie en 1775. Là, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que au moment où il écrit Candide, il n'a pas conscience de la menace que représente l'athéisme. Et des arguments qu'un conte comme celui-là pourrait lui fournir. D'où peut-être cette manière de faire de l'ingénu aussi, une forme de porte-parole qui va nous parler de l'être éternel, qui va affirmer des positions déistes, qui sont celles de Voltaire, qui a pris conscience à la fin de l'année 65 du danger que représentait la doctrine qui est en train de se développer, de se diffuser autour de Diderot et du baron d'Holbach notamment. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord sur l'idée que l'ingénu, c'est aussi une forme de porte-parole ici de Voltaire.
Donc, c'est un moment, vous dites tous qu'il y a une tentation athée claire et nette chez Voltaire. Elle aurait été contrée à un certain moment de sa vie. C'est comme cela qu'il faut penser les choses, Olivier Ferret ?
Disons que la position par rapport à l'athéisme n'est pas simple. Il réaffirme peut-être parfois contre lui-même ou contre certains de ses arguments qu'il met en avant une sorte de credo déiste du Dieu lointain. Parce que pour plein de raisons, parce que aussi socialement, il faut qu'on puisse avoir une forme de crainte. Bon, mais il y a effectivement qui affleure en permanence. On sent qu'il franchit pas le pas. Les arguments qu'il développe pourraient le faire basculer du côté de l'athéisme, et pourtant il y a cette résistance qui explique aussi ces revirements parfois surprenants. Et puis ce que je pouvais dire aussi par rapport à l'idée de progrès, ça me paraît important ce que soulignait Florence, hein, cette idée que dans l'ingénu, la raison pour laquelle on respire davantage dans l'espace de ce conte, c'est parce que il y a bon, même si c'est la fin est absolument catastrophique, il y a cette idée d'une progression, en tout cas dans l'échange avec Gordon, hein, dont vous avez lu un passage, hein, et qui se termine d'ailleurs de manière assez ironique, hein, puisque tout le monde progresse, mais y compris le janséniste, hein, et je crois qu'il y a cette formule que je cite de mémoire, hein, c'est un Huron convertissait un janséniste. Bon, c'est évidemment que c'est tout à fait ironique dans la formulation, mais ça dit aussi quelque chose de ce que le dialogue de bonne foi peut permettre de produire.
Moi, je l'appelais Candide, pour son cœur aussi pur que ses yeux, ses beaux yeux d'enfant timide, où dormaient des trésors merveilleux. Il disait toujours que les fleurs avaient un cœur et donnaient ses bons souliers aux enfants du cordonnier. Moi, je l'appelais Candide, il m'aimait comme on aime à 15 ans, et de cet amour splendide, il vivait comme vit le printemps, et dans le vent chantait, et dans mes bras rêvait. Moi, je l'appelais Candide, et ma voix tremblait. Sans rien me dire, il est parti, une lettre inachevée. Je suis trop bête et trop petit pour rêver près d'une fée. Moi, je l'appelais Candide, j'ai gardé près de moi son bonheur, et comme un ruisseau limpide, je revois les pensées de son cœur. Est-il resté l'enfant dont je riais souvent? Moi, je l'appelais Candide, il avait les cheveux grisonnants.
Et vous entendez Lucienne Delisle chanter Candide. C'est une chanson interprétée probablement dès les années 1940 et 1950, qui fait partie désormais d'une compilation de 2004. Merci beaucoup Christophe Martin, Florence Lottery, Olivier Ferret, en duplex d'ici Héros. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la notion de dignité humaine. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi se divise-t-on sur la dignité
humaine. La définition de la dignité humaine est très simple en apparence et ne devrait pas donner lieu à des conflits et à des divisions intérieures sur ce que l'on entend par là. La dignité humaine, c'est en effet le fait de reconnaître que tous les humains ont en tant que tels une valeur, quelle que soit leur situation sociale, leur situation médicale, leur situation personnelle. Tous les humains ont quelque chose en eux qui fait qu'on doit les respecter absolument. Le combat pour la dignité humaine ne devrait donc se faire que contre les adversaires de l'universel, d'une valeur universelle des humains, ceux qui pensent que certains humains ont plus de valeur que d'autres et qui ne respectent pas tous les humains, toutes et tous les êtres humains en tant que tels et absolument. Pourtant, il y a un autre conflit qui est plus surprenant peut-être, qui est le conflit entre les définitions et les défenses possibles de la dignité humaine, un conflit qui divise les tenants même de cet universel. Il est facile de comprendre comment ce conflit peut naître. En effet, la définition de la dignité humaine, d'une manière formelle en quelque sorte, est très simple. C'est ce que Kant disait en disant qu'il y a dans tous les êtres humains quelque chose qu'on doit respecter absolument et qui s'impose à tout le reste. Ce n'est pas seulement la dignité des dignitaires, ce n'est pas seulement un titre social, c'est en tant qu'être humain qu'on doit vous respecter. Mais c'est là que la division et peut-être le conflit qu'on vit aujourd'hui à l'intérieur des défenseurs de la dignité peut commencer et qu'on peut le comprendre. La question est simple en effet. Cette universalité des êtres humains, cette valeur qu'il faut respecter par-dessus tout dans tous les êtres humains quels qu'ils soient, sur quoi est-elle fondée? Pour certains, et c'est le cas d'Emmanuel Kant lui-même, la dignité des êtres humains, ce qui fait qu'il y a en eux, quelle que soit leur situation, quelque chose qui a plus de prix que tout le reste, c'est ce qu'on appelle la dignité, une valeur absolue en quelque sorte, c'est pour lui la raison, la capacité à s'autodéterminer, en quelque sorte la liberté qui fait que les êtres humains ne sont pas seulement des choses, mais des sujets, pas seulement des moyens, comme le dit Kant, mais des fins, des êtres capables de décider de leur vie, de leurs objectifs, de leur signification. C'est la liberté qui fonderait la dignité des êtres humains. Mais il y a d'autres définitions possibles de la dignité des êtres humains pour certains autres. Ce sera avant tout la condition sociale, la dignité concrète, le minimum vital. Et enfin, pour d'autres, ce sera finalement la vie elle-même. Au nom de la dignité rationnelle, de la dignité de la liberté, celle que défendent par exemple les personnes qui veulent mourir dans la dignité, qui veulent décider pour qui la raison, la maîtrise de soi est la faculté la plus importante de l'humain, et bien d'autres vont dire qu'au nom de cette dignité-là, on perd la dignité première, qui est la dignité d'être protégé dans sa vie. Est-ce la vie ou la liberté? Qu'est-ce qui fonde l'universel humain que de toute façon on doit respecter par-dessus tout et universellement contre les destructeurs de l'humain en général? Eh bien l'enjeu est très simple. Il faut comprendre qu'il faut respecter tout les aspects de la dignité humaine. Bien sûr, celui qui défend la liberté de choisir le fait aussi parce que dans certains cas, il risque d'être humilié, dominé par la maladie, la souffrance, la misère et presque l'approche de la mort. Et d'un autre côté, ceux qui défendent la dignité minimale, la dignité des conditions de vie, la dignité de la lutte contre la mort, le secours médical, savent bien qu'à un moment, il va falloir respecter le consentement aussi des êtres humains. Ainsi, la dignité est une et indivisible. Il faut respecter non seulement la dignité de tous les humains, mais tous les aspects de la dignité humaine.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Colin Gruel, avec à la technique Éric Perruchot-Triboulet. Merci encore aussi aux équipes d'ICI Hérault Montpellier. Cette émission a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Armance Bourquin. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité !